France Inter.
To be or not to be, not to be.
Il faudra un jour chercher à comprendre pourquoi les petits garçons sont si fascinés par les robots géants. Alors, au-delà du fait qu'un robot géant, c'est cool. Goldorak, Gundam, Robotech, plus proche de nous, Evangelion. Et à chaque fois, le même schéma. Un jeune adolescent brigadé dans une guerre dont il ne comprend pas tout et dont il n'est pas à l'origine, qui se retrouve contraint de piloter une puissante machine de guerre de taille gigantesque. Je me demande s'il n'y aurait pas un peu de psychanalyse derrière toutes ces histoires de méca. Des jeunes garçons en pleine puberté, cachés au fond de gros robots guerriers, qui se battent pour la nation, la planète ou je ne sais quelle grande cause qu'on défend une main sur le cœur devant un drapeau qui flotte. Les histoires de méca, c'est-à-dire celles des robots nippons, sont des histoires d'enfants qui font littéralement semblant d'être plus grands et plus forts qu'ils ne le sont réellement. Dès que la guerre éclate, les jeunes garçons envoyés au front n'ont plus le droit de disposer de leur corps, mais sont obligés de surcompenser en devenant d'immenses machines belliqueuses imperméables aux états d'âme. Mais au fond de la machine, l'enfant traumatisé, avide de paix, lui, demeure. Peut-être que ce que ces séries nous expliquent depuis des années, c'est qu'un homme déconstruit, bah c'est finalement juste un adolescent qui refuse de passer son permis robot.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Si la France de la fin des années 70 a été séduite par des super robots au point de parler aujourd'hui d'une génération Goldorak, il faut bien avoir conscience que cette série n'est qu'un exemple mineur parmi tant d'autres de la fascination du peuple japonais pour les mechas, ces robots gigantesques au design iconique. Macross, plus connu sous le nom de Robotech en France, Evangelion, Escaflowne ou encore Pat Labor sont autant de représentants arrivés ici de cette tendance. Pourtant, à l'origine de ce phénomène, il y a une franchise qui existe depuis 45 ans. Gundam. Véritable licence patrimoniale au Japon qui s'est imposée là-bas comme une référence de la SF, au même titre que Star Wars ou Star Trek. Malgré l'ampleur du phénomène, cette série demeure malheureusement trop méconnue chez nous. Et pour vous faire découvrir un des bijoux de la science-fiction en animé et en manga et rattraper cette injustice, je suis entouré par Jean-Philippe Dubrulle. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Le Phénomène Gundam, le colosse de l'animation paru en 2024 aux éditions Third. Et vous êtes aussi le traducteur en France de Gundam The Origin, manga culte de Yoshikazu Yasuhiko, réédité depuis 2024 en version deluxe par Vega. Avec nous également, de retour, Mathieu Pinon, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du magazine Otaku Manga, vous êtes notamment l'auteur de Un siècle d'animation japonaise, paru aux éditions Inis, que vous avez coécrit avec notre troisième invité, Philippe Bunel, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes journaliste pour les magazines Animascope, Japan Live et Japan Max.
C'est ça.
Still some backups here. Char?
Captain.
That was a mine. Minovsky particles have thinned out.
You know what'll happen if this hits the Earth. The planet's temperature will drop quickly. People won't be able to live. It'll cause a nuclear winter.
Those living on Earth only care about themselves and no one else. That's why I've decided to get rid of them all.
No one has the right to punish human beings that way.
I'm Char Aznable. It's my destiny to enforce discipline, Amuro.
You're full of yourself.
The Earth cannot go on like this any longer. Can't beat me with that machine.
Un extrait de Mobile Suit Gundam Char Contre-Attaque, un film d'animation japonaise de 1988, réalisé par Yoshiyuki Tomino, et il n'a pas été traduit en français, d'où le choix de diffuser un extrait en anglais. Et pour l'anecdote, l'un des personnages du film s'appelle Char Aznable, en hommage au chanteur Charles Aznavour. Alors, ma première question, Jean-Philippe, on va vraiment reprendre aux bases, hein, parce que vraiment, le but, c'est de donner envie aux gens de découvrir l'univers de Gundam. Qu'est-ce que signifie Gundam ?
Alors, Gundam, c'est le nom d'un, ce qu'on appelle un mobile suit dans l'univers de Gundam. On ne parle pas de robot. En fait, on parle de mobile suit. C'est un robot géant, machine de guerre, comme ça pourrait être un tank, ça pourrait être un avion, ça pourrait être une tondeuse à gazon. C'est un mobile suit. Et le mobile suit de la Fédération Terrienne, qui est la faction que nous suivons au début de cette aventure Gundam, eh bien, a nommé son mobile suit révolutionnaire le Gundam.
Et l'origine de la création de cette série, parce qu'il faut recontextualiser un petit peu, où on en est au Japon à ce moment de la création de Gundam ?
Alors, Gundam, tout premier du nom, arrive en 1979. On est au terme d'une décennie qui a été marquée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de dessins animés, de robots géants, comme vous en parliez en introduction. Moi, je parle un peu de robo-exploitation, tellement ça a été usé jusqu'à la corde, vraiment, à cette époque-là. Donc, c'est de là, notamment, que nous vient Goldorak. Dans ce paysage-là, il y a un réalisateur, Yoshiyuki Tomino, qui a déjà fait des séries de robots géants, qui a essayé de faire varier un petit peu la formule, qui était très engoncée dans ses codes. Et au bout d'un moment, il se dit, je vais carrément faire un animé dont j'aurai sur lequel j'aurai les pleins pouvoirs, j'aurai le champ libre. Et il fait ce fameux Gundam, qui est une révolution de son époque.
Philippe Bunel, qu'est-ce que ça raconte, Gundam ?
Gundam, ça raconte l'expansion de l'humanité vers les étoiles. Et il s'avère que, du coup, ils ont créé diverses colonies spatiales. Et la Fédération Terrienne, justement, veut avoir le pouvoir sur ces colonies. Parce que ces colonies, c'est un vrai vivier d'exploitation pour les matières premières, des nouvelles matières. Et aussi un vivier politique, bien évidemment. Sauf que les colonies terriennes, ben, ils ne vivent pas comme vivent les humains. Les humains, ils sont plutôt terre à terre. Mmh. Et du coup...
C'est-à-dire que, par exemple, si jamais les gens veulent avoir un parallèle intéressant, la situation aux Antilles est différente de celle en métropole.
Voilà, exactement. Et ceux qui sont plus plongés dans la pop culture, on parlerait plutôt de The Expanse, ceux qui connaissent la série sur Amazon. Et il s'avère que, du coup, les colonies se rejoignent derrière le duché de Zéon, qui est un grand groupe militaire politique qui va affronter la Terre, qui va vouloir son indépendance, mais de façon très virulente. Et nous allons suivre un jeune ado terrien, dont son père est un grand scientifique qui a créé le Gundam. Ce jeune ado, il va, par la force des choses, parce que sa cité va être, sa ville va être attaquée.
Ah bah oui, c'est un attentat terroriste.
Exactement, c'est ça, par Zéon, donc le duché de Zéon. Et du coup, il va arriver dans le Gundam, il va apprendre comment marche ce robot géant avec un manuel.
Ça va il avait déjà des bases parce que justement, il avait observé la manière dont son père avait conçu la machine.
Exactement.
On n'était pas face à un Deus Ex Machina où tout d'un coup, le garçon venant de nulle part est super doué.
C'est ça, voilà. Parce qu'on est dans ce qu'on va appeler plutôt les real robots, c'est plutôt réaliste, pour pas dire vraiment réel. Hein. Mais du coup, lui, il va intégrer après avec ce robot-là une équipe de jeunes militaires qui vont justement aller dans un vaisseau qui s'appelle le White Base et qui vont être tiraillés un peu entre la Fédération qui va leur donner des ordres souvent absurdes parce qu'il n'y a pas le bien ni le mal dans l'un ou l'autre. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est très très flou. Et du coup, eux qui sont une jeune équipe, ils vont devoir jongler avec toutes ces données.
Mathieu Pinon, que représente Gundam aux yeux du public japonais ?
Très difficile à dire, tellement c'est un pan de la pop culture que tout le monde connaît. Vous allez au Japon, vous dites Gundam, tout le monde voit très bien de quoi vous parlez. Et ce qui va être très très amusant, c'est que vous allez avoir les fans hardcore de Gundam. Alors là, vous commencez à parler que de Gundam, ils ont vu toutes les séries, parce qu'il y en a... Il y a au moins une quinzaine de séries télé, sans compter les films, enfin je pense qu'on parlera après de tous les médias. Ils connaissent tous les modèles de Gundam. Et puis à côté, il y a ceux qui regardent les fans de Gundam avec un regard un petit peu condescendant, en disant « Ah ah ah, bah ceux-là, c'est pas demain la veille qu'on va les marier ». Gundam, pour vous donner une idée, ce qui marche le mieux, c'est une licence extrêmement lucrative pour le studio Sunrise et Bandai. Ça rapporte à peu près 50 milliards de yens par an. Alors, au cours du yen, ça a varié, hein, c'est entre 300, 400, 500 millions d'euros par an. Et la moitié de ce pactole vient uniquement des maquettes à monter, des robots à monter. Donc c'est quelque chose qui est très très fort d'un point de vue pop culturel. Mais comme l'ont si bien dit mes camarades juste auparavant, il faut aussi voir ce que ça représente d'un point de vue dans l'évolution de l'animation au Japon. Parce que les robots géants qu'évoquait Jean-Philippe, c'était en 56, il y a eu Tetsujin Nijuachi, enfin Tetsujin 28, qui était le premier robot géant, mais qui était télécommandé, littéralement, avec une petite télécommande à antenne. Puis Mazinger Z en 72, qui était un robot piloté de l'intérieur, qui était le premier. Et là, c'est la première fois qu'on a des robots qui sont construits en série, comme les tanks, comme des hélicoptères. C'est vraiment uniquement des armes de combat. Avoir un robot géant dans l'univers de Gundam, c'est comme avoir une voiture dans notre univers. C'est tout à fait normal. Et par rapport à ce que disait également Philippe, il y a le fait que le White Base, le vaisseau qui va partir, l'équipage est jeune, est très très jeune. C'est même parfois des enfants, parce que comme il y a eu les attentats terroristes, il y a la moitié de l'humanité qui a péri dans les premières actions qu'a fait Zeon pour pouvoir retrouver son indépendance. Mais il n'y a plus que des jeunes pour aller au front. Et ça va poser beaucoup, beaucoup de questions.
Et d'ailleurs, c'est vraiment, excusez-moi de glisser une incise, mais le sujet de Gundam, c'est-à-dire...
Bah Gundam, c'est anti-guerre.
C'est les générations d'avant, militaires, qui disent, mais quel monde on va laisser aux générations futures ? Est-ce qu'il ne faut pas leur faire confiance pour trouver des solutions aux problèmes que nous, on a posés ?
Et donc Gundam, c'est l'absurdité de la guerre. Et en fait, avec Gundam, on va avoir un premier pas vraiment marquant dans l'animation pour jeunes adultes, pour adultes. Les enfants avaient commencé à 8-10 ans à regarder Astro en 63. En 79, ils ont 16 ans de plus, ils ont 24-25 ans, ils ont envie de quelque chose de plus mature. Et Gundam a vraiment amené des thématiques qu'on ne peut pas confier à un enfant de 10 ans, qui sont vraiment beaucoup trop sombres, beaucoup trop réflexives pour être considérées pour un public enfantin.
Jean-Philippe, si on est séduit par le pitch de Gundam, par quoi on doit commencer pour pénétrer cet univers ?
Alors, c'est une question assez récurrente, puisque comme l'a dit Mathieu, le corpus de Gundam est phénoménal, enfin astronomique, c'est peut-être le mot. Il y a des opus dans tous les sens, donc se pose toujours la question de par quoi commencer. À cela, je donne le petit conseil, qui est que une œuvre Gundam, son pitch commence toujours par une date. C'est très important. Par une date et le nom d'un univers, d'une chronologie. Donc là, on parle du premier Gundam. C'est la chronologie du siècle universel. C'est son nom, c'est le nom de cet univers-là. Et donc, deux cas de figure se présentent quand vous tentez de commencer Gundam. C'est, est-ce que le pitch que j'ai lu, c'est du siècle universel ? Or, si c'est du siècle universel, c'est la continuité originelle. Il y a plein de spin-off, de choses qui se rajoutent dedans. C'est un peu compliqué, on le met de côté. Si c'est n'importe quel autre nom, l'ère cosmique, l'anneau Domini, etc., vous pouvez y aller, c'est indépendant, il n'y a besoin d'avoir rien vu d'autre. Donc ça, c'est facile. Voilà, je fais cette petite digression, en fait, pour apporter cette solution. Quand c'est le siècle universel, voilà, donc c'est le gros morceau de Gundam.
Voilà. Faut être prudent.
Voilà, eh bien, faut être prudent, et la chance qu'on a avec le retour de Gundam The Origin en France, grâce aux éditions Vega, c'est qu'en fait, c'est une porte d'entrée idéale, puisque c'est le début. En fait, tout simplement. Donc, cette longue réponse, pour répondre plus directement, par quoi commencer ? Ben, Gundam The Origin, c'est un peu la porte d'entrée idéale, parce que c'est un remake du tout premier Gundam, c'est le début. C'est le récit fondateur où il y a tout dedans. C'est pas pour rien que la franchise a 45 ans et continue encore. C'est que dès son premier opus, c'était chargé, il y avait déjà en germe tout ce qui a fait le succès de la saga. Et en plus, c'est un remake dessiné et scénarisé par Yoshikazu Yasuhiko, qui est un artiste qui a une plume incroyable, tout simplement.
Oui. Qui était l'origine d'Arion aussi.
Tout à fait, Arion, Venus Wars, Jésus.
Jésus qui revient bientôt.
Jeanne.
C'est Jeanne. Si je peux me permettre, moi je fais souvent un parallèle entre Gundam et Star Trek, pas du tout pour l'univers, mais pour le fait que Star Trek, le grand public, quand il voit Star Trek, il se rappelle, oh, il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des extraterrestres avec des oreilles pointues, et c'est tout ce qu'ils ont conservé, de même qu'on peut faire, oh, Gundam, c'est des robots géants. Alors qu'en fait, c'est bien plus que ça. Puis il va y avoir les gros geeks, qui veulent commencer Star Trek et qui font « Je commence par quoi ?» La première série chronologique, ou je commence par la série dont l'intrigue se passe en tout début dans la chronologie de l'univers. Je commence par les films, je commence par les films de J.J. Abrams, qui sont un univers parallèle, etc. Et en fait, pour Star Trek, presque toutes les portes d'entrée sont bonnes, parce qu'à partir du moment où on va regarder une série, on va avoir un univers avec un groupe de personnages auxquels on va plus ou moins s'attacher, et on va comprendre l'univers Star Trek grâce à eux. Et après, quand on va prendre une autre porte de Star Trek, ça va faire grandir les choses. Donc c'est exactement ce qu'a dit Jean-Philippe. On peut prendre à peu près n'importe quelle porte d'entrée du moment que on a bien conscience
qu'il
y a vraiment...
Tant qu'on se méfie du siècle universel.
Le siècle universel, c'est l'épine dorsale, oui. Et le reste, c'est un petit peu les organes divers et variés.
On va poursuivre notre exploration de Gundam, mais pour le moment, on va écouter Raise Your Flag, la chanson qui ouvre Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans, une série qui date de 2015. Raise Your Flag.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
Ce chasseur est en fait une armure mobile.
Lieutenant, qu'est-ce que c'est que ça?
Aucune idée. Je croyais que seule l'Alliance et Oz avaient la technologie pour créer des armures mobiles.
Lieutenant, laissez-le nous!
Allez-y!
Incroyable. Peut-être que... Il contre-attaque.
Peu importe, feu.
C'était un extrait de Gundam Wing, une série réalisée par Masashi Ikeda, adaptation du manga de Koichi Tokita, publié en 1995. Philippe, revenons un petit peu en arrière sur la première série, sur Gundam Origins. Est-ce que vous pouvez nous parler des premiers protagonistes de la saga et en quoi leur traitement psychologique diffère de ce qu'on avait auparavant?
Oui, bien sûr. Alors déjà, on suit Rei Amuro. Le jeune dont je vous ai parlé pour présenter la série, c'est un jeune qui a déjà qui n'est pas un super-héros. Il n'a pas la volonté d'embrasser une destinée un peu divine ou super-héroïque. Lui, ce qu'il veut, c'est suivre sa vie, sauf qu'un acte terroriste l'a complètement perturbé. Et en fait, quand il arrive sur la White Base, aux commandes de son mecha, il doit aussi vivre avec des humains. Et là, on voit qu'en fait, il n'est pas habitué à ça. Il a un mal-être social, il faut qu'il l'apprenne. Et du coup, son chemin, son parcours initiatique ne sera pas juste d'être un héros, ça sera d'être un humain, tout simplement, de subir des drames et de se forger une personnalité.
Oui, parce que quand on le découvre, c'est vraiment un garçon qui vit dans une chambre au dépotoir. Vraisemblablement, l'hygiène et tout ça, c'est pas sa principale occupation.
C'est ça.
Il est très renfermé sur lui-même.
Oui, puis après, on peut dire qu'il y a une projection, parce que son père est un grand scientifique, donc on pourrait dire que c'est un peu le geek avant l'heure, celui qui aime ce domaine-là. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il intègre autant les commandes du Gundam. Et à côté de ça, il va vivre avec des personnages qui sont très très différents dans la White Base. Comme l'a dit Mathieu, il y a des enfants, mais il y a aussi un jeune commandant qui s'appelle Bright Noah, qui est très caractériel. Et lui, il a la rigueur en lui. Donc, il va donner des claques à Moreau pour le secouer.
Oui, parce qu'en fait, c'est un allié de circonstance. Il avait l'habitude de travailler avec des militaires et Amuro est un civil.
C'est ça. Et puis tous, en fait, ils sont un peu trahis par leur propre camp. Parce qu'ils doivent faire des actions qu'ils ne cautionnent pas forcément. Et à côté de ça, enfin, à l'opposé de ça, il y a Char, qui est un génie du pilotage de Gundam, aussi un génie stratégique qui est avec un masque, qui a beaucoup d'énigmes, il porte énormément d'énigmes.
Et qui est beau gosse.
Et qui est beau gosse. Il a une classe incroyable, c'est pour ça qu'il deviendra cultissime au Japon. Lui, il est connu peut-être même plus que la série Gundam. Et lui, il va en vouloir à Rey. Pourquoi ? Parce que Rey, il est aux commandes d'une machine ultra performante. C'est-à-dire que lui, il doit avoir donc les anciennes machines, mais qui sont déjà très performantes, se battre contre lui, et il se dit, mais toi, tu y arrives parce que t'as la machine pour toi. Et en fait, on apprendra que progressivement, il y a autre chose. C'est qu'en fait, avec l'expansion de l'humanité dans l'espace, l'humanité évolue.
Et là, on arrive à développer des dons.
Voilà, on a un stade transcendantal et c'est super intéressant.
Les new type.
Ouais.
On est, ça se sent dès. Là, il n'y a pas vraiment de spoil, hein, mais ça se sent dès le premier tome de Gundam Origins. On voit que Amuro a une perception des choses qui échappent logiquement aux humains terriens tels qu'on les connaît.
C'est pour ça qu'il a une grande réactivité, de beaux réflexes. Donc du coup, rien n'est laissé au hasard dès le début.
Qu'est-ce qui vous a séduit personnellement dans cette franchise ? Parce que c'est pas la première fois qu'on se voit, hein. On n'a pas attendu d'enregistrer cette émission pour... Et c'est vrai que vous avez des étoiles dans les yeux, respectivement, quand vous parlez de Gundam. Donc tous les trois, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette franchise ?
Bah, d'abord, je pense comme beaucoup, les robots. Pour commencer, c'est quand même la tête d'affiche, c'est ce qui se voit en premier, comme le disait Mathieu, quand on parle de Gundam aux gens, c'est, au Japon ou ailleurs, c'est les robots géants, les robots géants, les robots géants. Donc c'est d'abord ce goût-là. Et puis, voilà, Gundam, on y vient pour les robots, et on y reste pour les personnages. Parce que voilà, c'est du drame humain avant tout. Je reviens sur ce qu'exposait Philippe, sur le setting de la première série, où on a ce héros amoureux, qui, voilà, un civil, dont la ville a essuyé un attentat terroriste, qui se retrouve par la force des choses aux commandes d'un robot géant, puis il intègre un navire où il y a une discipline militaire qui doit s'appliquer, alors c'est compliqué avec lui. Comment dire, Gundam, c'est, dans cette série-là, comme dans d'autres opus, Gundam, c'est à chaque fois, on prend des personnages d'horizons divers, de valeurs diverses, qu'on met dans une cocotte minute. La cocotte minute, en général, c'est un vaisseau. Un environnement clos, en tout cas, ce sont des huis clos. Et c'est la puissance de ces récits-là, de l'évolution des personnages. J'ai même envie de dire, parce que c'est ça qui est caractéristique des héros de Gundam, c'est qu'ils évoluent. On les prend au départ dans une condition particulière, et ensuite, on les suit dans leur quête initiatique très très cabossée. Voilà, je termine aussi, vous parliez cet éveil métaphysique, le pouvoir des New Type. Aux gens qui ne connaissent pas forcément Gundam, j'ai envie de leur dire, c'est très proche finalement de Dune. Mais finalement, l'éveil, alors sauf qu'il n'y a pas qu'un seul Kwisatz-Haderach, il y a des New Type, il y en a plein. Mais voilà, on suit finalement un jeune qui va s'éveiller à sa nouvelle condition, à des pouvoirs qui vont le mettre en porte-à-faux avec des personnages qu'il aime, qu'il n'aime pas, etc. Et c'est, voilà, c'est passionnant en fait, de suivre ces personnages-là, toujours dans le décorum des robots qui sont très cool.
Il faut faire attention.
Et Jean-Philippe Dubrulle, pour rebondir sur ce que vous dites sur la dimension du huis clos, ça m'est apparu en lisant ce premier livre, ça m'a fait penser à Battlestar Galactica. Je trouve qu'il y a énormément de similitudes entre Gundam The Origin et Battlestar Galactica sur la problématique des réfugiés au sein d'un vaisseau, les civils, les militaires, et vraiment cette idée aussi de course-poursuite, c'est-à-dire qu'il se passe énormément de choses dans le vaisseau, mais aussi il y a toujours cette pression permanente qui est incarnée par Char et le duché de Zeon, mais dans Battlestar Galactica c'était les Cylons.
Tout à fait, on est dans ce trope finalement qu'on voit aussi dans Space Battleship Yamato, on aura peut-être l'occasion d'en parler. C'est quelque chose d'assez classique dans le space opéra finalement, mais comme on le voit là, le space opéra, il y a ce décorum du vaisseau spatial, de la poursuite dans l'espace, etc. Mais au final, c'est quoi ? C'est un huis clos. Dans le cas de Gundam, le créateur, Yoshiyuki Tomino, a souvent dit, le White Base, c'est ce vaisseau qu'on suit dans le premier Gundam, c'est une famille, en fait. Et voilà, et on a cette caméra, cette vue du spectateur qui finalement regarde par le trou de la lorgnette la vie d'une famille, la vie compliquée d'une famille nombreuse où de nombreuses interactions vont faire que, en dépit du fait que c'est un univers fictionnel, science-fictionnel, finalement, on se sent très proche des personnages parce que ce qu'ils vivent est éminemment humain et quotidien.
Philippe Bunel ?
Alors moi, j'aime, c'est l'intrigue géopolitique. Le fait que ça nous rapproche à notre réalité. Donc c'est, en gros, Gundam, c'est, mettons que les robots géants, ça puisse exister, mettons qu'on est qu'on soit tous partis dans l'espace. Maintenant, comment on crée ça? Bien sûr, on le rapproche à notre réalité parce que c'est le propre de la science-fiction, de faire des projections. Et par exemple, quand on parle de super-héros, en fait, c'est pas vraiment de super-pouvoirs, c'est pas des super-pouvoirs qu'ils vont avoir, c'est juste des perceptions sensorielles développées.
Voilà. C'est un peu comme des X-Men, ils ont évolué.
Voilà, c'est de l'évolution. Et tout ça, puis ces intrigues géopolitiques avec les stratégies militaires, des absurdités qui se créent ici ou là, enfin, on se dit, mais oui, l'homme, il est totalement imparfait, et c'est ça que je retrouve. Et puis, il y a des robots aussi, mais voilà.
Blockbuster sur France Inter.
Kira Yamato, ikimasu!
Vous venez d'entendre la bande-annonce de Mobile Suit Gundam Seed Freedom, film de Mitsuo Fukuda sorti en 2024. Mathieu Pinon, je ne vous ai pas oublié. Ah,
mais je me doutais bien que vous ne m'auriez pas oublié. Pour ma part, ce qui me plaît dans Gundam, alors, outre le fait qu'il y a des robots géants, tout à fait, mais...
Il faudra quand même qu'on explique un jour, c'est ce que je disais dans mon édito.
Pourquoi les robots géants?
Voilà, pourquoi cette fascination pour les robots géants?
C'est vraiment une grande question. Ce qui est déjà très intéressant pour quelqu'un qui apprécie le dessin animé, Gundam, c'est la licence phare, c'est vraiment le vaisseau amiral de Sunrise. Donc à chaque fois, il va y avoir une qualité technique hors du commun. Vraiment, Sunrise, Gundam, on sait que même si on n'aime pas l'intrigue, ce qui est rare, on va en prendre plein les yeux, ça va être impressionnant. Il y a déjà ça qu'il faut prendre en compte.
Ça fait un peu série identitaire, oui, comme Ghost in the Shell pour Production IG.
Et ce que j'aime particulièrement, moi, dans Gundam, c'est vraiment l'ambivalence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a des camps adverses. Mais dans le camp A, il y aura des salopards et il y aura des types bien. Dans le camp B, il y aura des types bien et il y aura des salopards. Et les salopards feront des choses bien et les types bien devront se salir les mains. Alors attention, cher auditeur, je vais spoiler pendant 15 secondes, mets ton chronomètre. Moi, ce qui me marque le plus, notamment la scène qui m'a le plus marqué, c'est quand Amuro revient, je ne sais plus si c'est sur Terre ou sur Side 7, qui retrouve sa mère. Et pour la première fois, il va tuer quelqu'un de ses mains, non pas avec son Gundam, il va flinguer quelqu'un, et sa mère va lui dire « je ne te reconnais pas ». Cette scène-là, alors qu'il a déjà désingué plein de types à bord de son Gundam, ça va vraiment le marquer, et c'est une évolution qui est folle, et c'est le héros. Et là, on se dit « ah merde, il a tué quelqu'un », alors que c'est le héros, ce qui n'est pas normal. Donc on est toujours remis en question. Dernière chose, alors moi j'aime beaucoup, ça va paraître pour un vieux pervers sadique, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup les œuvres où on tue les enfants et on tue les animaux. Parce que ça veut dire que...
Mais c'est bien, il faut que ça sorte, Mathieu.
On ne s'interdit rien. Hein. Independence Day, quand il y a le chien qui s'en sort à la dernière minute, on explose parce que c'est un film américain, on ne peut pas tuer un labrador. Dans les animés, on peut se permettre ça, et dans Gundam, mais ça défouraille à tout va. Yoshiyuki Tomino, son surnom, c'est Kill'em All. Il n'a aucun scrupule à tuer les personnages envers lesquels on a le plus d'affection, même si c'est des enfants. Ben voilà, c'est pour montrer à quel point la guerre, c'est complètement absurde, c'est une saloperie, les ravages que ça peut faire. D'ailleurs, si vous voulez vous mettre à Gundam, que vous voulez commencer par un truc pas trop long, vous regardez War in the Pocket. Croyez-moi, le message antimilitariste de Gundam, alors que c'est des robots géants qui sont là pour faire la guerre, il est extrêmement flagrant dans cette courte série de 6 OAV, je crois.
Et cette idée de personnage nuancé, pas forcément prêt à rentrer dans tout ce qu'implique un conflit militaire, une guerre, c'est quelque chose qu'on a revu dans énormément de séries qui pourraient être les héritières de Gundam, alors que Gundam continue son chemin, mais je pense évidemment à Evangelion, je pense même à l'attaque des Titans. Les Titans étant des mechas organiques, mais Eren, Shinji, est-ce que c'est pas un petit peu les héritiers d'Amuro? Je vous pose la question. Philippe, Jean-Philippe?
Complètement. Ce sont des héros, des personnages principaux malgré eux, tous. Enfin, Shinji en est l'exemple le plus éclatant, parce que voilà, c'est à lui qu'on dit littéralement « monte dans le robot », parce qu'il ne veut pas, etc. Amuro, il s'y élance, mais parce que nécessité fait loi, parce qu'en fait, s'il fait rien, les robots géants de Zion arrivent vers lui et il va y passer. Il a déjà vu des gens y passer quelques instants avant. Eren, lui est dans quelque chose de beaucoup plus volontaire. Il est marqué par un traumatisme, mais il en ressort très vindicatif. Il en ressort offrez votre cœur, le poing serré sur le cœur. Exactement. Mais en tout cas, ces héros-là, oui, n'auraient pas pu exister sans Amuro. Amuro, le héros du tout premier Gundam et de Gundam The Origin. Il y a beaucoup de récits sur sa création. Où les différents acteurs, que ce soit Tomino, le créateur de l'univers, ou Yas, le dessinateur, témoignent du fait que ça a été créé Amuro, ce héros-là, en particulier, a été le fruit de plusieurs paris. Un pari qu'on relève pas souvent, c'est qu'il a pas forcément il est pas japono-japonais. Le personnage dans l'univers, en termes d'origine géographique ou ethnique, il n'est pas japonais, contrairement à tous les héros de dessins animés de super-robots de l'époque, où il y avait cette fibre un peu nationaliste, c'est beaucoup dire, mais qui venait flatter l'éthos du pays. Donc Amuro est un personnage d'un monde cosmopolite. Déjà, il est un peu lugubre, il a des cheveux frisés, il rappelle un peu poil de carotte, enfin il n'a pas un physique de jeune premier non plus. On a parlé du fait que c'était un geek qui passe son temps en caleçon dans sa chambre, pas très propre. Cet anti-héros, on l'avait, je crois, dans l'animation japonaise de l'époque, jamais vu. Et force est de constater qu'il a fait école.
Et dans la longue franchise qui a découlé de Gundam avec mille et une séries, quelle autre pépite valent le détour ?
Dans le domaine de la science-fiction avec des robots géants, par exemple ?
Non, dans l'animation, dans la grande franchise Gundam, en dehors de Origins, quelle autre série vous a marqué et...
Alors, il y a la série 2 qui est très chérie des fans de Gundam, c'est Zeta Gundam, qui c'est la suite, en fait, mais... Tomino est très intelligent, parce que déjà, il a attendu qu'on le sollicite pour faire cette série, parce que c'est en 85 qu'elle arrive, pas avant, et entre-temps, il en aura fait plein des séries, où il aura tué plein d'enfants. et en fait, avec Zeta Gundam, il va tout simplement contrebalancer tout le scénario de la première série. Là, c'est les Terriens qui sont devenus extrémistes, et il va mettre un autre héros dans le même style qu'a Amuro, mais vraiment amplifié avec des problèmes relationnels encore plus balèzes. Cette série est incroyable parce qu'on revoit même Char dans un autre paradigme. C'est une très belle série, techniquement incroyable. C'est, je pense, une orgie de méca pour ceux qui aiment les robots parce qu'ils ont énormément de designers et beaucoup de mobile suites, donc qui arrivent dans cette série. Il y a un contexte politique encore plus riche, c'est très très fort. Et une autre que moi je pense, j'adore War in the Pocket, c'est super. Toutes les OAV de l'époque, donc les productions faites pour la vidéo Gundam sont très belles.
Est-ce que vous savez où elles sont accessibles au visionnage en France ?
Alors en France, il y a Crunchyroll pour les séries Gundam, les OAV ne sont pas encore disponibles malheureusement, et l'éditeur All the Anime a édité les séries en Blu-ray.
Alors, il faut rappeler aux auditeurs, alors je sais que ceux qui écoutent Blockbuster de longue date le savent, mais ce que signifie OAV ?
Alors, c'est des productions qui étaient réalisées exprès pour la vidéo, donc Original Animation for Video, et du coup, ça a ciblé directement un public plus mature, qui avait les moyens d'aller acheter des VHS. Et pour les studios, c'était super parce que tout de suite, ils avaient une rentrée d'argent directe. Ils ne passaient pas par la télévision avec toutes les contraintes télévisuelles. Là, ils pouvaient vraiment faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient se lâcher et avec soit de la violence ou alors des productions plus onéreuses et luxueuses.
Et sans passer également par les contraintes cinématographiques avec un distributeur en salle.
Exactement.
Mathieu Pinot.
Pour ma part, je vous citerai deux titres. Il y a Gundam Seed qui est, selon moi, presque une relecture de Gundam avec les moyens actuels. Bah, je suis allé voir le film en 2024 quand il est sorti et j'en ai pris mais plein les yeux. La salle était pleine à craquer parce que c'est vraiment une sortie extrêmement courte et ça faisait plaisir de se trouver entre fans. J'ai d'ailleurs été marqué par la jeunesse du public. Je pensais me retrouver vraiment entre vieux cons. Et en fait, non, c'est un public et jeune et mixte, donc ça m'a fait très plaisir. Et l'autre série que je vais citer est très rarement citée. Et je la trouve très intéressante parce que déjà elle n'est pas accessible, hélas, c'est Turn A Gundam, qui s'écrit avec un A à l'envers, donc pour les mathématiciens, les professeurs de maths qui nous écoutent, pour tout Gundam, quel que soit le Gundam, ce qui déjà veut bien dire à quel point les Gundams sont monnaie courante, et là ils ne sont pas monnaie courante puisqu'on est dans un univers où la guerre est passée depuis des millénaires et des millénaires, et les Gundams sont carrément figés enfin, il y a des roches qui ont poussé dessus, des minéraux, et ça devient des icônes religieuses pour des tribus un peu autochtones qui ont vraiment reculé technologiquement. Et apporter un peu de mysticisme dans Gundam, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. C'est Tomino qui a vraiment été très très malin avec cet angle-là particulier. Et en plus, Yoko Kanno est aux commandes de la bande originale. Oui. Alors, comment, pourquoi bouler son plaisir? Vraiment, dommage. Donc, Crunchyroll, n'hésitez pas à ajouter Turn of Gundam à votre catalogue, s'il vous plaît.
Je crois que c'est la série qui a la plus belle fin de l'histoire de l'animation.
Oui, elle est, voilà. Donc, mais merci, ça me fait plaisir de me sentir moins seul. Mais
je voulais dire ce titre, justement.
Avant que c'est bien, vous devriez écrire un livre ensemble.
On devrait écrire un bouquin ensemble.
Vraiment, travailler ensemble. Jean-Philippe Dubrulle.
Il y a eu de très très beaux exemples cités, donc je vais prendre un peu le contre-pied. Je vais parler d'un OVNI dans la saga Gundam qui a été fait pour le 15e anniversaire, je crois, au moment où ils avaient fait des suites du premier Gundam, puis au bout d'un moment ils se sont dit ce serait bien de commencer à faire des spin-offs décorrélés pour que des gens puissent rentrer dans le jeu. Et ils y sont pas allés de main morte, ils ont fait Mobile Fighter G Gundam, qui est c'est Dragon Ball Z avec des robots géants. Grosso modo,
incroyable.
On a sur un post-it, on a une trame géopolitique qui fait la base du scénario, et après c'est des pilotes, enfin des champions d'arts martiaux qui enfilent des combinaisons de motion capture en spandex et qui se battent comme ça avec leurs robots géants qui reproduisent leur mouvement, ils lancent des boules de feu, ils ont des noms d'attaque qui hurlent, etc. Donc c'est en rupture totale avec tout Gundam, c'est absolument pas un échantillon représentatif, c'est même tout le contraire, mais en tant que série d'aventure, en tant que shonen bouillonnant, c'est une incroyable série, et je pense que c'est un shonen, en fait, à côté duquel beaucoup de gens passent parce qu'ils voient écrit Gundam, donc ils s'attendent à la guerre, au drame, à toutes ces choses qu'on a évoquées depuis le début et qui sont fascinantes et qui font l'intérêt de la saga Gundam. Mais j'ai Gundam, cette petite bouffée d'oxygène, de légèreté d'un côté, mais aussi, j'insiste là-dessus, en tant que récit d'aventure, c'est incroyablement bien ficelé et on en sort, on y vient pour rigoler, on en sort avec des larmes viriles, le poing serré en regardant ses personnages les plus charismatiques.
En enfermant son cosmos.
Oui. Tout à fait.
Et un final incroyable aussi.
Ah oui, un chambardement.
Disponible sur Crunchyroll aussi.
Tout à fait.
Je me permettrai de rajouter, juste en passant, Gundam Unicorn, pour une simple et bonne raison, c'est que si un jour vous allez au Japon, vous allez à Tokyo, et que vous passez sur la presqu'île d'Odaiba, vous verrez un Gundam à taille réelle, présenté, et c'est un Gundam qui vient de Gundam Unicorn.
Donc, et qui bouge
en plus, un tout petit peu. Donc autant être préparé si vous voulez aller à Tokyo pour faire « Hey, je connais, ça vient de Gundam Unicorn, je l'ai vu grâce à Blockbuster ».
Frédéric Sigrist.
So far, so good.
Blockbuster. Sur France Inter.
Le Gundam. J'en ai entendu parler, oui. J'arrive pas à y croire.
Un nouveau MS de la Fédération. Ça peut tout changer à la guerre. Quand le Gundam arrivera ici, vous serez vraiment reconnaissant d'avoir un Zaku pour vous défendre. Ça, je peux vous le promettre. Les fêtes que vous sauvez n'abandonneront pas. Et ils reviendront tuer les nôtres.
Personne ne mérite de mourir ici. Pas même vous.
On est foutus. On va y arriver. C'est chez nous, là-haut.
Vivre dans l'espace dote les humains de capacités dont ils n'avaient pas besoin avant. Nous devenons une espèce capable de comprendre les véritables intentions derrière les actions. Les capacités des New Types ne sont pas de la magie. On doit tous accomplir notre devoir. Tu le sais bien. C'est moi qui arrêterai le Gundam.
C'était la bande-annonce de Gundam Requiem pour une vengeance, série produite par Netflix et réalisée par Erasmus Brosdo, qui a également travaillé sur la série animée Resident Evil Infinite Darkness et les jeux vidéo Star Citizen, Rise of Son of Rome et Crysis. Alors, nous sommes tous autour de cette table, nous sommes tous des garçons. On a parlé de la fascination des garçons pour les gros robots. Mais justement, est-ce que Gundam a su diversifier son public et est-ce qu'aujourd'hui, on trouve aussi des spectatrices de Gundam et des amatrices?
Oui. Donc, comme je vous disais, moi, l'expérience sur le film de Gundam Seed, Freedom, j'étais vraiment surpris de voir qu'il y avait... on était sur du 60% de garçons, 40% de filles. Et c'était pas des jeunes filles qui avaient été traînées par leur mec en disant « Tiens, je vais t'emmener au cinéma » et qui étaient tombées dans un traquenard. Non, elles étaient vraiment aux premières loges. Et je pense qu'un des premiers déclencheurs de ça, ça a été la fameuse série Gundam Wing, qui a été une première porte d'entrée pour le public français, puisque, comme on le disait, étonnamment, Gundam n'est jamais arrivé en France, alors que c'était une licence très très forte au Japon. Et donc, c'était en 84. 95, si je ne dis pas de bêtises.
Au Japon.
Au Japon, 95, et c'est arrivé chez nous au tout début des années 2000, puisque le Club Dorothée s'arrête en 97, et M6, très subtilement, se dit « Hé, il y a un créneau à prendre !» Donc M6 a fait un grand coup avec trois séries, Yu-Gi-Oh!, Cardcaptor Sakura, et Gundam Wing. Alors Yu-Gi-Oh! C'était vraiment très garçon, Cardcaptor Sakura c'était très fille, et Gundam Wing permettait d'avoir un entre-deux, puisqu'on avait des robots géants pour plaire aux garçons, et cinq super beaux gosses pour piloter, pour plaire aux filles. Et la recette a...
Oh, Mathieu, ça vous a plu aussi, arrêtez. Ça,
il adore les boys bands.
Totalement, j'adore les boys bands Sentai Yaoi. Bonjour, auditeur de Blockbuster, tu chercheras ce que ça veut dire. mais très sérieusement, le mix fonctionne très bien. D'ailleurs, le mix avec tout mix au générique. Et encore aujourd'hui, il y a des femmes quadragénaires qui se rappellent avec une petite larme d'émotion avoir regardé Gundam Wing sur M6 parce que, ah ouais, moi mon préféré c'était celui-ci, ah non mon préféré c'était le ténébreux, ah moi c'était le blond, un peu comme Senseiya à l'époque, oui. Qui a su capter un public féminin grâce à ses héros un peu androgynes. On a vraiment la même recette, mais avec des robots géants à la place d'armure d'or.
Jean-Philippe ?
Il y a cet élément-là, en fait, qu'on retrouve dès la création de Gundam au Japon, hein, la série de 79. Alors ça, c'est quelque chose que l'auteur Tomino remet sur le tapis assez régulièrement. C'est de dire que le public de la première série Gundam, historique, était très mixte et qu'il recevait beaucoup de courriers de spectateurs, pour le coup, avec, dans le lot, voilà, beaucoup de spectatrices qui envoyaient leurs avis et leurs questions sur la série. Ça fait penser aussi à, finalement, tout le proto-fandom de l'animation au Japon, puisque ça aussi c'est documenté que dans les premières conventions dans les années 70 puis 80, etc., en fait la part du public féminin était très représentée, très présente, et c'est finalement au fil du temps qu'elle s'est un petit peu invisibilisée, mais comme en a témoigné Mathieu avec l'exemple de Gundam Seed Freedom, le film sorti en France récemment.
Et d'ailleurs, elle a été invisibilisée à dessein, c'est-à-dire qu'il y a eu des vraies volontés éditoriales de segmentariser les publics. Il y a pas si longtemps, l'auteur de Dan Dadan, lui, avait pour ambition d'avoir une héroïne, et il savait très bien que s'il laissait qu'une héroïne et s'il mettait pas un binôme avec un garçon, la série ne serait pas validée. Et c'est lui-même qui le dit, c'est l'auteur.
Tout à fait. Il y a ce piège des segmentations du public. Alors, un piège qu'a essayé de dépasser l'une des dernières séries Gundam télévisées, The Witch from Mercury, où en fait, c'est un duo d'héroïnes qui sont sous le coup d'un mariage arrangé toutes les deux d'ailleurs, donc on pousse encore le curseur de l'inclusivité et de la parité. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est présent dès les ferments du premier Gundam, et sur, après ça c'est en termes de positionnement, mais pour parler de la population des fans aussi, je citerai un peu l'exemple du jeu vidéo, en fait du gaming en général, où c'est vrai que l'image d'Épinal qu'on a du gamer, c'est un garçon dans sa chambre, etc. Pour autant, quand on fait des enquêtes, et j'en ai fait dans le cadre d'autres activités...
Énormément de joueuses, même plus de joueuses que de joueurs.
C'est ça, c'est au moins kiff-kiff, et si on regarde sous certains angles, il y a un peu plus de joueuses, donc les femmes sont là, mais on les voit pas. Donc ça doit poser la question de pourquoi on ne les voit pas. Et finalement, dans Gundam, c'est peut-être un peu ça. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une parité parfaite dans le public, mais il y a des femmes fans de Gundam. Juste, on ne les voit pas. Question à se poser, comment cela se fait-il ?
Et j'avais juste oublié, dans la toute première série, il y a le personnage de Sayla, qui, dans les quelques premiers épisodes, n'hésite pas à...
Elle est incroyable.
Elle met tous les mecs à ses pieds, elle donne des claques, elle se fait tenir en joue par des mecs, elle les regarde tellement froidement que les gars se mettent à trembler de partout. Et le fait d'avoir des personnages féminins très forts et pas juste des potiches qui sont là...
Même la navigatrice, Mirai.
Oui, ça a certainement
même
apporté...
Même la sœur des méchants, en fait.
Kishilia.
Ouais, elle est absolument impressionnante. Et on a envie de la voir parce qu'on aime la détester, en fait. Limite, je crois que c'est celle qui a le plus de charisme dans la famille Zabi.
Comment on explique... Alors, effectivement, Gundam est arrivé sur les écrans français assez tard. Le Club Dorothée était déjà sur la fin, donc ceci explique peut-être cela, hein, vu que ça a été quand même notre plus gros pourvoyeur d'animation japonaise pendant très longtemps. Mais comment on explique qu'une franchise aussi importante au Japon a encore une relative confidentialité en France, et au point que, par exemple, relancer le manga Gundam The Origins n'est pas un succès garanti par rapport au marché français.
Est-ce que ça fait pas un peu peur de rentrer dans un univers aussi vaste Alors qu'en fait, il est maintenant très accessible. Tout à l'heure, tu faisais le parallèle avec Star Trek. Quand on commence la première série Star Trek de 66, on attrape le train en marche et puis on découvre progressivement le lore et c'est génial. Et bah c'est pareil Gundam. Donc je pense que ça peut faire un petit peu peur, comme quand on dit à des cinéphiles qui sont très pro cinéma occidental, tiens, tu veux regarder un peu le cinéma asiatique. Mais tu vois, c'est un peu ça quand on arrive sur Gundam, on a l'impression qu'on va être immergé par un trop-plein, alors qu'en fait, il ne faut vraiment pas avoir peur. Et après, il y a aussi la représentation des robots en France. On n'a pas réussi. On n'arrive pas à en faire une mode. Goldorak, bien entendu, mais Goldorak tout seul. On a eu après Mazinger qui est arrivé. Bon, ça a floppé. Après, bon, Evangelion est arrivé. Ça a vraiment beaucoup marché, mais dans la communauté des fans qui... ça grandissait, vraiment. Gundam Wing, ça n'a pas non plus fait des enfants en termes de diffusion télévisée en France.
Est-ce qu'Afloné a attiré un public féminin vers les robots géants, mais...
On était encore sur les chaînes privées, c'est sur Canal+. Donc voilà, ça a vraiment cimenté le socle de fans, mais ça n'a pas vraiment créé des modes qui font que même le large public s'y intéresse. Alors après, tu as bien plus tard des Pacific Rim et tout ça qui font que, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Hollywood qui se relance dans le Kaiju Ega, parce que c'est pareil, les films de monstres géants, parce que les Japonais adorent le gigantisme pour plein de raisons. Là, on s'y intéresse encore. Enfin, à nouveau, King Kong revient, Godzilla revient, des grands robots reviennent. Mais bon, est-ce qu'on va vers Gundam, forcément ?
Jean-Philippe, mot de la fin ?
Non, bah c'est le... Gundam en France, c'est l'histoire de plusieurs rendez-vous manqués. En fait, c'est vrai que la saga a tout pour plaire. Il y a des moyens, aujourd'hui plus que jamais, dont Gundam The Origin chez Vega, des moyens de rentrer dedans. Mais pour autant, jusqu'ici, ça ne s'est pas fait. Pourquoi ? Parce que tropisme un peu dédaigneux envers les robots et la SF en général en France. Je pense qu'on est bien placé ici pour le savoir. Gigantisme de l'œuvre qui fait qu'on a un peu peur. Mais voilà, s'il y a un moment, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai envie de dire que le Gundam... personne n'a jamais dit que Gundam s'était surcoté. Pour une raison très simple, c'est que la qualité des œuvres est phénoménale. Mathieu l'évoquait tout à l'heure, c'est un peu comme les jeux Nintendo. C'est-à-dire quand vous avez Nintendo qui fait un jeu first party, vous savez que vous allez bien manger. Oui. Voilà, vous allez peut-être moins aimer qu'un autre, etc. Mais oui. Vous savez que vous allez bien manger. Bah, bien Gundam, fini. C'est ça en fait. Une œuvre Gundam, vous savez que vous allez bien manger, de base. Donc, il ne faut pas avoir peur de la déception. Voilà, c'est la première chose. Comment dire, ce qui a manqué jusqu'ici, c'est le déclencheur. Comment mettre Gundam dans les mains ou sous les yeux du public ? Aujourd'hui, plus qu'il y a 10 ans, le mot Gundam est connu. La notoriété est là. L'offensive de Vega, mais aussi sur Netflix avec Requiem pour une vengeance, fait qu'on voilà, on est en train de mettre Gundam dans les mains des spectateurs et des spectatrices. Je pense que si ça se passe bien, l'essai sera transformé un peu tout seul au vu de la qualité des œuvres.
Merci beaucoup Jean-Philippe Dubrulle, merci Mathieu Pinon, merci Philippe Bunel d'avoir évoqué Gundam dans Blockbuster. J'espère qu'on a donné aux auditeurs l'envie de découvrir cet univers. Moi j'y retourne, je partage ça avec mes enfants et ils sont clients, donc n'hésitez pas, franchissez le pas. Une émission qui a été réalisée par Étienne Bertin et elle a été préparée par Lysiane Larbani, qui me remercie une fois de plus de l'avoir fait et de l'avoir fait découvrir les robots géants. Elle adore ça, c'est spoiler, non, elle aime pas ça. Et elle a été aujourd'hui, Clément Berman. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur Instagram @fredsigrist.